bonsoir. Entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, fermeture, regroupement d'écoles rurales et lutte de classe. En cette semaine de rentrée, le temps du débat a choisi de se déplacer dans la Somme, département qui a été le plus touché en cette rentrée par la fermeture d'écoles, mais qui a connu aussi la mise en place de grands regroupements pédagogiques concentrés dans les RPC, que certains appellent d'ailleurs, des usines ou des drives qui rassemblent depuis la maternelle jusqu'au CM2, des élèves et des professeurs des écoles issus des établissements fermés aux alentours. Depuis France Bleu Picardie à Amiens, que nous remercions pour leur accueil, nous allons tenter de décrire une situation complexe qui met en mouvement les élus politiques, les personnels de l'éducation, les aménageurs et les parents d'élèves. Que disent ces fermetures, mais aussi ces réouvertures de l'état des mondes ruraux aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir avec nos quatre invités. Dorothée Farcy, elle est enseignante à Saint-Riquier, elle est membre du bureau SNUIPP-FSU, le syndicat. Sébastien Vignon est avec nous, il est maître de conférence en Sciences Po à l'Université de Picardie. Il est spécialiste des politiques rurales et en particulier, il travaille depuis maintenant plus de 20 ans sur les vocations des maires ruraux. Un maire rural, on l'a avec nous ici, c'est Sylvain Manac, il est maire de Oisemont, justement une commune qui a connu un regroupement. Et puis Jean-Luc Massalon est également avec nous, il est ex-directeur d'école de Pontoile et directeur d'école aujourd'hui à Nouvion.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis.
Bonjour Jean-Luc Massalon. Merci, c'est grâce à vous qu'on a cette chanson en fait au bout du compte. Et merci parce que quand on est né comme moi en région rurale dans le Poitou, eh bien on sait ce que ça veut dire, la fermeture des écoles, l'ouverture des écoles, le combat des maires pour pouvoir en ouvrir une classe ou maintenir celle qui existe. Et vous êtes à l'origine de cette chanson chantée par Gauvin Serres qui a été un des grands succès au printemps dernier dans toute la France.
Oui, alors tout d'abord merci de vous intéresser à ce sujet. Ce sont les fermetures d'écoles, c'est rare que l'on en parle à ce niveau de radio, donc merci à vous. Et oui, en effet, alors je suis à l'origine bien à contre-cœur de cette chanson. J'aurais bien aimé ne jamais l'entendre, cette chanson.
C'était en 2017, vous êtes allé voir Gauvin Serres dans un concert à Amiens, ici même, et puis à la sortie, vous êtes dit pourquoi je ne lui lance pas une bouteille à la mer, ou plutôt un petit message.
Oui, voilà, oui, lors de son concert, il a un très bon rapport avec son public, et il parle énormément, il évoque des sujets qui m'ont touché et interpellé. Je me suis dit que ce serait un bon porte-parole de ces écoles, puisque nous, dans nos petites écoles, on ne nous entend jamais, hein, pour dire très rarement, en tous les cas, on ne nous donne jamais la parole. Donc j'ai voulu qu'il soit un peu le porte-drapeau, qu'il reprenne nos idées.
Et donc il a repris vos idées pour cette chanson « Les oubliés » qui raconte effectivement « On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis » qui est tombé exactement au moment des bagarres autour des gilets jaunes et qui d'une certaine façon avec d'autres chansons ont pu apparaître comme une sorte d'hymne de tous ceux qui considéraient que la campagne était abandonnée, Jean-Luc Massalon.
Oui, alors c'est vrai qu'elle a été énormément médiatisée suite à ce mouvement des gilets jaunes, mais elle est née quelques mois avant, elle est née au mois d'avril l'an dernier, donc six mois avant le début des manifestations des Gilets jaunes, comme quoi à la campagne, on savait déjà que nous étions oubliés, nous étions incompris, ou en tous les cas non écoutés.
Alors vous êtes venu avec votre pull en laine, que vous
n'avez plus depuis ce
moment-là, parce que étant le héros pour le clip en particulier. Mais c'est dans votre école qu'a été tourné le clip de cette chanson de Gauvin Serres, l'école de Pontoile. Vous aviez deux classes et elles ont disparu donc l'année dernière.
Oui, voilà, c'est ça. Deux classes qui ont fermé en une seule année, voilà.
Et vous considérez que c'est un abandon, une trahison? Parce qu'on entend des termes qui sont durs autour de cette question de la fermeture d'écoles rurales. On entend « c'est un piège qui nous est tendu », on entend « on est en manque », qu'il y a un manque parce que simplement là où il y avait quelque chose, il n'y a plus rien. On sait parfois d'ailleurs que dans certaines régions, eh bien, il y a des écoles privées qui vont finir par remplacer des écoles qui ont été fermé. Qu'en est-il justement de ce manque ?
Alors c'est exactement ce que vous dites. Je ne trouve pas que le mot piège ou tous ces mots-là soient trop durs. Hein. Je pense qu'ils reflètent l'état d'esprit actuel. On a été ignoré, voire méprisé, puisque absolument pas concerté avant les fermetures. Et on nous annonce du jour au lendemain une fermeture d'école complète. Et comme vous le disiez, en effet, certains élèves qui étaient à l'école de Pontoile n'ayant pas pu avoir de dérogation pour une école qu'ils souhaitaient, bah ils se sont inscrits dans le privé. Ils apprenaient à la maison jusqu'alors cette année, et là ils sont inscrits dans le privé.
Alors c'est un peu tard peut-être pour vous, mais le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale ont au printemps dernier dit qu'ils avaient entendu des choses autour de cette question des fermetures. Le président de la République a dit qu'il n'y aurait pas de fermeture d'école sans l'accord du maire. Alors quand on se penche sur cette question-là, eh bien c'est complexe parce que les rectorats proposent, les maires disposent a priori, dit-on. Comment ça se passe exactement justement cette question des fermetures ?
Les maires ne disposent pas complètement hein, puisque dans beaucoup de régions, notamment à Pontoile, hein, le maire n'a plus la compétence école. C'est le cas aussi pour quelques écoles qui sont menacées de fermeture l'an prochain, Neuilly-l'Hôpital, à Gainvilliers.
Ça passe à quel niveau alors ?
Alors c'est les communautés de communes qui gèrent les fermetures ou ouvertures d'écoles, enfin qui gèrent la carte scolaire. Ils ont signé des conventions ruralité où d'ailleurs ils s'engagent à privilégier davantage les RPC et RPI au détriment
alors,
des petites
RPC,
écoles.
Alors RPC, RPI, celui qui est en face de vous à ce micro va pouvoir nous expliquer de ce dont il s'agit, Sylvain Manac, puisque vous êtes maire de Oisemont et c'est une RPC. Alors que sont les RPC et les RPI ? Ce sont des regroupements qui permettent justement de regrouper plusieurs écoles qui ont fermé dans un même lieu. Vous êtes membre d'une communauté de communes, donc ça correspond tout à fait au portrait qui vient d'être dressé par Jean-Luc Massalon. Qui décide ? Fermeture, ouverture, le maire est-il véritablement responsable d'une fermeture ? Il ne voudrait pas l'être, j'imagine.
Non, non, parce que moi-même, j'ai signé des pétitions pour mes collègues homologues maires. Il y en avait une à Neuville-Cobgueule qui devait fermer également, où nous-mêmes, nous avons signé la pétition pour la non-fermeture de la classe. Au-delà de ça, c'est une concertation, comme vous dites, il est vrai, entre les coms des coms qui ont...
Les
communautés de communes. Par rapport à la loi NOTRe, derrière cela, il y a ça aussi, il ne faut pas oublier...
C'est quoi la loi NOTRe
La loi NOTRe. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais la loi NOTRe, j'aime à dire qu'elle a été mise en place sous le gouvernement de Hollande, donc socialiste, et validée par le Sénat, qui à l'époque était majoritairement à droite.
Mmh. Donc c'est une loi de consensus.
Il faut un peu nous expliquer, nous les maires ruraux, quand on nous dit qu'il ne faut pas faire de politique, mais il faut bien qu'on fasse avec nos politiciens.
Et qu'est-ce que donc cette loi NOTRe et en quoi ça engage justement la mise en place de nouveaux regroupements d'écoles ?
La loi NOTRe, si vous voulez, nous oblige à prendre des compétences, c'est-à-dire que l'État se désengage de plus en plus, donc envoie ses compétences soit sur la région, soit sur le département. Après, ça fait un effet boule de neige. Si ça va à la région sur certaines compétences va donner ça au département. Tout à l'heure, on parlait entre nous du transport scolaire, c'est un très bon exemple. Et si le département juge de faire un appel d'offres, chose comme ça, c'est les coms des coms qui récupèrent la compétence.
Alors cette communauté de communes, je crois que c'est un regroupement de 36 villages que vous avez pour votre regroupement de RPC.
Oui, tout à fait, oui.
Avec donc 36 villages aux alentours, c'est la vallée de la Brelle, et vous avez 360 élèves dans ce regroupement qui vient d'ouvrir lundi dernier, c'est ça ?
Voilà, mais c'est ouvert en deux étapes. Hein. Il y a eu une première étape en octobre 2014. On a ouvert le premier RPC élémentaire avec 200 et quelques élèves. Et suite à un désaccord politique-politicienne, on a bloqué les travaux et on a déclenché le deuxième élément qui a fait qu'aujourd'hui, on vient d'ouvrir la maternelle et une cantine.
Donc, ça va de la maternelle au CM2 ?
Au CM2.
C'est regroupé à Oisemont, qui n'est pas le centre de la communauté de communes, d'après ce que j'ai compris.
Non, le centre, tout au moins, oui, est à Poix-de-Picardie.
Voilà, et il y a 360 élèves dans ce regroupement, alors que le collège à côté en a 200, c'est cela ?
Oui.
Donc, vous avez plus d'élèves dans le primaire, dans cette RPC de Oisemont, qu'il n'y en a dans le collège à côté.
Il y en a dans le collège, oui.
Ça ne pose pas de problème, ça ? C'est-à-dire que tout compte fait, ces jeunes enfants, ils vont être socialisés très tôt, en tous les cas, parce qu'ils seront au milieu de beaucoup d'autres jeunes enfants. Oui. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les écoles de 18 élèves par classe qu'a connu... c'était 18, vous avez eu ?
Un petit peu moins, même la dernière année.
Jean-Luc Mazzalon, voilà. Donc, on passe de 18 ou de un petit peu moins à 360 dans un même ensemble.
Pas dans la même classe, hein.
Ça, on a bien compris, on l'espère en tous les cas. Dorothée Farcy, vous êtes enseignante, vous, à Saint-Riquier, et donc membre du bureau du SNUIPP-FSU, le syndicat ici dans la Somme. Qu'est-ce que cette politique vous inspire en tant que membre d'un syndicat et enseignante au bout du compte?
Ben, nous, on déplore effectivement toutes ces fermetures d'écoles. On a quand même eu 27 fermetures d'écoles là, à la
rentrée.
Dans la
Somme, à la rentrée. Voilà. Et ça n'est pas la première année.
C'est la première année où on en a autant.
Autant, ouais, c'est ça.
12 quand même dans la circonscription Ponthieu-Marcanterre, pour ouvrir deux gros RPC aussi. Donc l'un à Guéchard.
Qui n'est pas encore... Il est ouvert ?
Il est ouvert, oui. Et puis l'autre à Vron. Un petit RPC à Vron, puisqu'il y a 6 classes, mais quand même... Et donc, nous, on déplore quand même toutes ces ouvertures de grosses structures pour différentes raisons. On augmente le temps de transport des enfants. Un petit de 3 ans qui va faire 40 minutes de transport le matin. Et autant pour revenir le soir, c'est relativement fatigant. Alors, je prends 40 minutes, c'est peut-être pas le cas pour Oisemont.
Pas du tout. C'est
combien pour Oisemont ?
Nous, le maximum, c'est 25.
25 minutes. L'élève le plus loin qui vient dans votre regroupement est à 25 minutes. Voilà.
Et on inverse bien sûr le circuit le matin par rapport au soir.
Oui. Dorothée Farcy ?
Donc voilà, il y a d'une part le transport, la taille des RPC, effectivement, plus c'est grand, moins c'est convivial, selon nous. Il y a également une rupture du lien.
Et plus c'est grand,
quand même,
plus ça a de moyens. Plus c'est grand, plus ça a de modernité.
De modernité, peut-être. Mais en tout cas, de moyens, peut-être pas, parce que quand un enseignant va être absent, on n'est pas certain d'avoir un remplacement, puisque un enseignant absent dans une école de 17 classes, on peut répartir facilement les élèves. De fait, on n'a pas besoin d'avoir un remplacement. On n'est pas prioritaire sur un remplacement, par exemple.
Et quand vous étiez malade, ça vous arrivait quand même?
Non, j'avais une journée et demie en 20 ans.
Jean-Luc Mazzalon, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas le bon exemple en même temps.
Bah oui,
Donc, vous ne savez pas comment ça se passe?
Non, je ne sais
si
pas
vous
comment
pas
ça
là.
Se passe.
Vous êtes également avec nous, Sébastien Vignon, et vous êtes maître de conférence en sciences politiques ici à l'Université de Picardie. Vous êtes spécialiste des politiques rurales et en particulier des maires ruraux et de leur destin, de leur vocation. Vous travaillez depuis 20 ans sur ces questions-là. Vous voyez au fur et à mesure, puisque vous avez la durée du temps pour vous, depuis que vous avez commencé votre premier travail, vous voyez s'agrandir ce gouffre justement autour de la désertification, autour des services publics qui disparaissent. Est-ce que vous en avez noté les signes récemment?
Oui, effectivement, cette question des fermetures d'écoles, on va dire, s'inscrit dans un processus qui comporte aussi, on va dire, la fermeture de commerces, de bistrots, les cafés de village, comme on pouvait dire.
Ça, c'est pas l'État.
J'entends bien, non, mais je veux dire...
Les églises, ça n'est pas l'État non plus.
Pourquoi ça suffit? Voilà. C'est-à-dire que c'est une étape supplémentaire, on va dire, dans la déstructuration, comme le disait madame tout à l'heure, dans la déstructuration des liens sociaux. C'est-à-dire que l'école, au moment où on se parle, dans le village, c'est encore souvent le seul lieu de rencontre entre les gens. Avant, ils se voyaient au café, ils se voyaient à la coop, à la ruche, à l'épicerie du coin. Et ça permettait de nouer aussi des solidarités, c'est-à-dire de l'entraide pour garder les enfants à la sortie d'école si le papa ou la maman est en retard, etc., etc. L'intégration aussi des nouveaux résidents. L'intégration des nouveaux résidents dans un village, elle peut passer aussi par les fréquentations à l'entrée et à la sortie de l'école. C'est là où on met un nom sur un visage, on sait qui habite au numéro 15 de la rue un tel ou une telle. Bon. Donc cette fermeture d'école, elle a un impact aussi très fort sur les élus, mais aussi sur les populations, parce que...
Mais les élus vivent très mal, de toute façon, voilà, de devoir assumer fermeture d'une classe ou la fermeture carrément d'une école.
C'est pas populaire, on va dire, d'assumer. Généralement, c'est des décisions qui leur échappent, parce que, comme le disait tout à l'heure monsieur le maire, aujourd'hui, la chaîne de décision, on va dire, elle s'est allongée. C'est-à-dire qu'il faut plaider sa cause à la com de com, où on
communauté
est...
Communauté de communes.
Communauté de communes, pardon. Où on est parfois sans élus. Bon, comme dans une assemblée... régionale, voire une petite assemblée nationale où il faut prendre la parole au micro, où il faut faire partie de commissions de travail. Bon, parce que si vous n'êtes pas membre d'une commission, évidemment, vous êtes moins au fait de ce qui va se faire, quels sont les acteurs qui comptent, les élus qui comptent, etc., etc. Donc tout ça a impacté le rôle de maire aussi, dans le sens où aujourd'hui, le maire d'une petite commune, il doit à la fois être un élu de proximité, une super assistante sociale, parce que c'est le dernier relais on va dire, de l'État dans le village.
Ça fait beaucoup rire, votre voisin.
Mais en même temps, en même temps, il doit être aussi un entrepreneur politique publique. C'est-à-dire qu'on lui demande pas seulement de répondre aux doléances physiques, matérielles des gens, mais aussi d'entreprendre le développement de son territoire.
Oui, et puis Sylvain Manac, c'est pas très bon pour le développement durable, parce que, ce qu'on fait, ça fait beaucoup de déplacements, beaucoup d'essence, beaucoup de routes à construire, voire même élargir les rues de Oisemont pour pouvoir laisser passer les bus, voir arriver les flots de voitures le matin et les voir repartir le soir une fois que la classe est terminée.
Et c'est le gros souci sur Oisemont par rapport à la sécurité.
Vous avez des embouteillages.
Voilà. C'est phénoménal, mais c'est quatre fois un quart d'heure dans une journée.
C'est quand même pas mal.
Et donc, tant que je serai là, il est hors de question que je mette des centaines, des milliers d'euros dans une structure pour quatre fois un quart d'heure. Donc là, cette année, j'aime à le répéter, c'est vrai que ça s'est très bien passé l'ouverture, puisque quand vous voyez arriver quand même 350-360 élèves, le souci, c'est que, comment dire, il y a le transport scolaire d'un côté, et de l'autre côté, on voit énormément de parents venir amener leurs enfants. Alors, c'est vrai, au niveau
de l'impact écologique.
L'impact écologique n'est franchement pas bon, et en plus, ils payent deux fois. Donc,
Et puis, effectivement, il y a certains parents d'élèves qui ne sont pas contents de la fermeture, comme l'école maternelle d'Andainville, la petite commune de 250 habitants dans la Somme, qui était tout proche de Oisemont. Maintenant, ils doivent se rendre à Oisemont.
Pas contente du tout parce qu'on perd une maîtresse superbe, on perd une école de nos enfants et où on a passé notre enfance et ça nous plaît pas du tout. Moins il y en a, mieux c'est. Au moins les maîtresses elles peuvent s'occuper plus de nos enfants que quand vous voyez qu'ils vont dans des grandes écoles, ça va donner quoi par la suite? Ça va leur faire quoi s'ils suivent pas? Ils vont se retrouver au fond de la classe et ils vont pas être aidés. Moi je suis franche, je vous le dis, ça nous plaît pas.
Ah ben moi contrairement à certains, je suis pour, hein.
Pourquoi?
Ben j'en ai déjà une au RPC, donc ça m'évite de venir ici, repartir, revenir, voilà. Ça m'arrange, tout simplement.
Voilà, un micro-trottoir, comme on dit, pour avoir les deux avis, pourrait-on dire. Il y a tout de même des caractères positifs à ce regroupement
Oui.
Sylvain Manac.
Je dirais que moi j'ai rencontré les différentes personnes au niveau de l'équipe pédagogique, le personnel également. Bon, je me suis pas trop initié parce que c'était quand même la rentrée et une rentrée où on était tous un petit peu, nous les élus, un peu anxieux par rapport à la sécurité. Je répète et je répète le message, mais franchement, c'était ça notre point noir. Sur l'ensemble de l'équipe pédagogique, d'ailleurs, il y a eu des articles dans l'Éclaireur, le journal qui paraît dans la Brelle-Vimeux, où les enseignants ont participé à, comme vous dites, à un micro-trottoir, sauf que là, c'était un papier-crayon, et ben, le message était positif. Et les enfants, également, sont heureux. C'est les parents qui se plaignent.
Dorothée Farcy, on peut dire aussi que du côté des enseignants, il peut y avoir quelques avantages à se retrouver dans un regroupement comme celui-ci, en particulier un travail en commun, ne pas être tout seul avec tout le temps avec ses élèves et ses quelques classes, ça peut être aussi un avantage, non ?
Oui, effectivement, ça peut être un avantage. Mais le fait d'être dans une école rurale n'empêche pas d'avoir des projets avec l'école d'à côté, avec l'enseignant, un enseignant à quelques kilomètres de là, n'empêche pas de faire de l'USEP avec d'autres écoles. Il y a des projets qui se mettent en place. Il n'y a pas besoin d'être en RPC pour faire des projets tous ensemble. On le faisait bien avant que tout ça se mette en place.
Et donc, vous voyez plus d'inconvénients que d'avantages à ces RPC ou est-ce que tout compte fait, c'est la question du verre à moitié vide, comme celui que vous avez juste en face de vous, ou à moitié plein?
Plus d'inconvénients, plus d'avantages, je n'ai pas pesé, mais moi qui travaille dans un RPC, je peux quand même constater, comme les enfants arrivent en quart le matin et repartent de la même façon, je ne vois plus les parents ou très peu, c'est beaucoup plus difficile de les rencontrer.
Jean-Luc Massalon, vous ne travaillez pas dans un RPC, mais vous dirigez donc l'école de Nouvion, qui est une école qui regroupe d'autres communes aux alentours. Ça vous ferait peur de vous retrouver dans une structure aussi grande que celle de Oisemont, par exemple, avec un rôle différent que vous pourriez tenir à l'intérieur de cette structure?
Je ne me vois pas du tout dans une telle structure, là, c'est clair. Absolument pas. Moi, ce qui...
Il y aura plus un portail vert, de toute façon, déjà. Ni la salle toute bleue.
Alors, ce qui m'intéressait dans le métier que j'appelle toujours instituteur, c'est peut-être mon âge qui fait ça, mais voilà, ce que j'aimais dans ce métier, c'était ce lien avec les parents, ce contact. Les enfants, moi, je savais ce qu'ils faisaient le soir en rentrant chez eux. Je savais les activités qu'ils avaient en rentrant. Voilà, tout tout ce lien est complètement perdu dans des grosses structures, puisqu'à Nouvion, on est quand même 173 élèves, ça commence à être une grosse structure, et c'est pas du tout le même lien avec les parents.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat en direct de France Bleu Picardie à Amiens consacré aux fermetures, au regroupement d'écoles rurales et à la question de ces classes qui ferment et qui rouvrent dans d'autres endroits. Tout compte fait, si on réfléchit à cette question, Sébastien Vignon, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Picardie. Beaucoup de militants qui vivaient dans, et qui vivent encore d'ailleurs dans les espaces ruraux, dans les mondes ruraux, comme le disent les chercheurs en sciences politiques, eh bien beaucoup de militants, de gens qui veulent défendre la ruralité, veulent avoir aussi des conditions semblables qu'à la ville. Ça fait partie d'une des réclamations. On veut être au même niveau qu'à la ville, en termes de santé, en termes d'école, en termes de pharmacie, de médecins, d'hôpitaux de proximité, etc. Qu'est-ce que ça dit de, qu'est-ce que ça dit justement de cet écart qui s'est peut-être creusé entre des territoires urbains qui sont parfois très proche des espaces ruraux et des territoires ruraux qui sont aussi occupés par des urbains, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir l'hétérogénéité de la population qui n'est plus exactement totalement rurale ni totalement urbaine.
Tout à fait. Et la Somme est un département assez spécifique, dans la mesure où on a quelques grandes villes qui ont plus de 10 000 habitants. Il y en a trois seulement ici. Et on a effectivement, quand on dit la ruralité, et vous l'avez souligné à l'instant, les sociologues, je pense à Nicolas Renaï ou Julien Michy, ont effectivement attiré l'attention.
Il faut lire leurs ouvrages
voilà,
sur ces questions-là.
Voilà, sur la nécessité de plutôt utiliser le terme de monde ruraux, parce que le terme de monde insiste plus sur la notion d'hétérogénéité, quoi. Et vous l'avez dit, les populations qui viennent y résider sont assez diverses. On aura à la fois des classes moyennes, des professions intermédiaires qui vont venir à la recherche, on va dire, d'une ruralité un peu distinctive pour le cas de paysage. Mais on a aussi dans les mondes ruraux, et comme vous le disiez, ceux qui sont les plus éloignés des grandes villes, on a aussi des accès contrariés en quelque sorte à la ruralité. C'est-à-dire des gens qui viennent y habiter parce qu'ils sont chassés un petit peu par le boom immobilier en milieu urbain, où les prix des loyers, l'acquisition d'une propriété augmente. Et bah, ils vont de plus en plus loin, parce que plus ils vont loin, plus le prix du terrain bâti
va diminuer. Avec des manières de vivre, voilà. Avec des manières de faire qui ne sont pas
adaptées forcément.
On l'a vu récemment avec la question du coq Maurice, par exemple, voilà. Ou d'autres exemples de ce type, effectivement, avec, disons, des usages qui ne sont pas les mêmes de la ruralité.
Alors,
ou de l'espace rural.
Ceux qui viennent y habiter, qui ont des ressources pour continuer d'aller en ville, eux, ça les choque pas trop. Mais le plus difficile, c'est pour les populations qui se trouvent assignées à résidence, c'est-à-dire qui voient que ça se passe ailleurs, que tout se passe ailleurs, et qui n'ont pas les moyens économiques, culturels, matériels de s'y rendre.
J'imagine que quand on travaille comme vous, en tant qu'enseignante en milieu rural, vous êtes à Saint-Riquier, Dorothée Farcy, mais vous êtes aussi membre du bureau du SNU-IPP FSU de la Somme, on se pose la question justement du niveau d'exigence, de la qualité de l'enseignement qui est porté justement dans ces espaces ou ces mondes ruraux par rapport à ce qui se fait ailleurs sur le territoire. J'ai lu qu'il y avait un observatoire de l'école rurale qui était devenu observatoire éducation et territoire il y a quelques années et qui fait des enquêtes régulières pour voir où on en est dans les espaces ruraux, comment les enfants peuvent sortir de leur milieu, par exemple, etc. Est-ce qu'on a des enquêtes sur ce domaine-là qui sont intéressantes et qui permettent de comprendre ce que ça veut dire faire de l'école en milieu rural ?
Des enquêtes, probablement, mais nous, ce que l'on sait, c'est que les écoles rurales ont prouvé leur plus-value et il y a vraiment une meilleure réussite en école rurale. Les classes sont à multiniveau.
J'ai lu des enquêtes un tout petit peu différentes.
Les classes sont à multiniveau, de petite taille. Le lien social avec les parents qui favorise quand même l'apprentissage des élèves. Le climat scolaire qui est serein. Donc oui, pour nous, effectivement, les petites écoles ou les écoles rurales ont une plus-value.
Jean-Luc Massalon ?
Oui.
Sur ces questions-là, parce que certaines enquêtes disent, mais on est en train d'arriver, parce qu'il y a aussi unification par les réseaux sociaux, par l'Internet, il y a unification des modes et des méthodes d'apprentissage hors école. Et donc, effectivement, les élèves ne sont plus forcément les mêmes que ceux qui existaient avant l'invention du net, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Est-ce que vous avez senti cette évolution, Jean-Luc Massalon ?
puisqu'ils ont d'autres moyens de se rencontrer, pourquoi les forcer à se rencontrer dans des RPC? Franchement, quel intérêt.
Vous n'oubliez pas votre but.
Je voulais revenir quand même. Enfin, là, on parlait des écoles rurales. Monsieur le ministre lui-même vante n'est pas et toujours plein d'éloges envers les écoles rurales.
Hein. Il dit l'image d'une éducation nationale insensible à l'affaiblissement de la ruralité est fausse. Chaque fois qu'un maire a souhaité réouvrir une école, nous l'avons fait. Dit,
Alors il n'a pas écouté le maire de Pontoil. Non mais franchement, les maires, de toute façon, les maires en tous les cas dans notre secteur, sur la communauté de communes du Pontieu-Marcantère, n'ont plus leur mot à dire, puisque ce n'est pas eux qui décident. Donc même d'après malgré ce que M. Macron a dit, ce n'est pas le maire qui fera rouvrir l'école.
Alors cette RPC donc dans votre commune de Oisemont, Sylvain Manac, vous en attendez quoi? Parce que évidemment, on ferme des écoles, fermant des écoles, on ferme des commerces, ou les commerces sont fermés avant les écoles. Enfin, bon, ça veut dire aussi la désertification de certains bourgs et de certains villages ruraux. Mais vous, ça va vous apporter beaucoup, parce que s'il y a 350 élèves, ça veut dire qu'il y a 350 pains au chocolat peut-être le matin, ça veut dire qu'une boulangerie va peut-être pouvoir réouvrir, qu'il va peut-être pouvoir y avoir effectivement des courses qui seront faites à Oisemont qui n'étaient pas faites auparavant. Enfin, j'imagine qu'en tant que maire, ça vous supporte, ça vous aide.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas 350 élèves qui arrivent tous les jours sur Oisemont, c'est aux alentours de 800. Ah. Puisque nous avons une école privée Saint-Joseph en primaire qui dépasse les 100. Nous avons la MFR, maison familiale rurale, où ils sont dépassés une centaine également, et le collège et le RPC. Donc, il est vrai que pour nous, des maires comme en ce moment, on a beaucoup de débats sur la dynamique des centres-bourgs. Comment redynamiser nos centres-bourgs? Parce que nous aussi, nos commerces plus ou moins ferment. Aujourd'hui, on attend du petit commerçant le service qui va bien, mais malheureusement, le samedi après-midi, le bon exemple, c'est Oisemont, bien sûr. Eh ben, on a quasiment personne dans les rues d'Oisemont. Ils sont partis dans les centres commerciaux, ouais, choses comme ça. Donc, par contre, oui, il est vrai que moi, demain, ce que j'attends de ça, c'est un redéveloppement économique. Ça va être un plein d'essence, ça va être un chariot, ça va être une course à la maison de presse.
Et ça va être aussi peut-être un lotissement à créer, parce que on dit souvent que si on a une école, des familles viennent s'installer et on va pouvoir augmenter le nombre de familles sur le...
Surtout que j'ai la chance dans le bourg d'avoir une maison plurifonctionnelle. J'ai quand même 5 médecins, 7 infirmières, 2 kinés et demi, 2 dentistes.
Vous allez faire des jaloux.
Donc, je suis sûr beaucoup de mes collègues, oui, m'envient à Oisemont, parce que là, ce qui nous manquait, si vous voulez, c'est que c'était de remettre une dynamique au niveau de notre bourg-centre. Et un des facteurs, automatiquement, aujourd'hui, c'est ce RPC.
Oui, Jean-Luc.
Oui, donc c'est très bien pour le village de Oisemont.
Et pour moi, c'est Jean-Luc Massalon.
Au détriment des autres villages alentours.
Oui.
Ah oui. Donc, mais quand vous parliez, voilà, les parents que vous ne voyez pas en plus dans le bourg parce qu'ils sont dans les centres commerciaux, mais on fait exactement la même chose avec l'école. On est en train de faire des centres commerciaux alors qu'on est en train d'en revenir partout. On nous dit que ça n'est pas la bonne solution, les centres commerciaux. Et on refait du commerce de proximité. Et on est en train de faire complètement l'inverse avec l'école. Et on s'apercevra dans 20 ou 30 ou 40 ans que c'était une très mauvaise idée, ces RPC. Je suis désolé, vous ne me réinviterez peut-être pas, mais dans 40 ans, je pense qu'on s'apercevra que c'était une très mauvaise idée.
Je ne suis ni un militant des RPC, ni un militant des petites écoles rurales. Ne vous inquiétez pas, Dorothée Farcy.
Je reviens sur ce qu'a dit monsieur le maire d'Oisemont. Il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que dans le RPI de l'Épine, en l'occurrence, qui est menacé de fermeture à la rentrée prochaine, donc 5 classes menacées de fermeture, 3 écoles, le maire me disait encore récemment un couple souhaite
s'installer
dans le village. La première chose qu'il demande, c'est: y a-t-il une école ? Et là, en l'occurrence, quand il leur répond que l'école est vouée à fermer l'année prochaine, c'est un couple qui part. Et pour lui, son village se meurt peu à peu.
Mais on peut dire quand même, sans être vraiment obsédé par la comptabilité, que quand une école passe de 16 élèves à 9 élèves, on ne va pas pouvoir la maintenir.
Mais là, le RPI de l'Épine, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans une baisse d'effectifs. Il n'y a vraiment pas un manque d'élèves.
Hein. Jean-Luc Massalon.
Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Sauf que là, le problème, nous... L'an dernier, on a subi de plein fouet, en fait, la loi, les CPA12, qui a été une excellente idée, mais absolument pas anticipée.
C'est quoi, alors, préciser pour les auditeurs?
La création en REP, donc en zone d'éducation prioritaire, des CP à 12, dédoublés à 12, CP, CE1 maintenant
ah oui,
cette année.
Les CP à 12, voilà.
Voilà. Donc il a fallu des postes d'enseignants, puisqu'on a dédoublé les classes, il fallait forcément des enseignants, et ces enseignants-là n'ont pas été, cette mesure n'a pas été anticipée, et donc au dernier moment, on est allé fermer des écoles pour récupérer des enseignants, ou fermer des classes pour récupérer des enseignants, pour pouvoir gérer ces CP à 12, qui était une excellente idée.
Hein, ça reste toujours une très bonne idée,
sauf que ça s'est fait malheureusement sans anticipation et au détriment des écoles rurales.
Sébastien Vignon, vous qui observez donc ces questions de ruralité, d'espaces ruraux, de mondes ruraux depuis maintenant plus de 20 ans, et en particulier sur le désespoir de certains maires, vous analysez justement, vous avez fait je crois 700 entretiens avec 700 maires depuis maintenant 20 ans. Est-ce que vous voyez justement cette désespérance dont on parlait des élus?
Bah oui, on en entendait déjà parler en 2001, je ne sais pas si vous vous souvenez autour de la table, mais il y avait des sondages alarmistes sur on va manquer d'élus, on l'a entendu à nouveau en 2014.
On a cru comprendre que Sylvain Manac va se représenter. Ouais, je ne sais pas, mais en l'occurrence, avec tout le caractère positif de ce qu'il vient d'écrire au micro, il va sûrement y aller une deuxième fois, ou une troisième fois.
La question, c'est qu'on a une transformation de la sociologie des maires, notamment dans la Somme. C'est-à-dire qu'en 2001, on avait encore une majorité, enfin en tout cas une part de maires agriculteurs ou anciens agriculteurs qui dépassaient les 35% quand on prend les retraités. Aujourd'hui, on a plutôt des cadres, professions intellectuelles supérieures, des éducateurs, des professeurs.
Ça correspond aussi au changement sociologique des villages.
Mais ce sont peut-être des élus qui seront plus enclins à délaisser la mairie en ayant l'impression, et c'est parfois pas une impression, que finalement, c'est beaucoup d'investissements matériels, financiers, psychologiques, pour finalement une rétribution, je parle même pas d'indemnité, symbolique. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, parfois, il y a des maires qui me disaient, mais les nouveaux, je les connais pas, quoi. Alors qu'il y a 20 ans, je pouvais vous dire, madame Truc, son fils est en école d'ingénieur, monsieur, bon. Là, il y a une forme de dépersonnalisation, ce qui fait qu'ils ont l'impression de donner beaucoup pour finalement recevoir, ne serait-ce qu'en gratification symbolique, de l'estime, de la reconnaissance, ils pensent ne pas l'avoir non plus. Donc ces élus qui sont d'autres catégories socio-professionnelles, qui sont pas forcément natifs de leur village, qui sont syndiqués, qui font de l'associatif en dehors du village, ils ont d'autres espaces des possibles. C'est-à-dire que si à un moment, ils sont un peu usés par la fonction, ils ont la possibilité de dire je vais faire du humanitaire, ou je vais faire autre chose, ou je vais plutôt m'investir dans ma profession.
Dorothée Farcy, ça vous rappelle quelque chose?
Et effectivement, nous, par rapport à l'école et aux liens qu'on peut avoir avec les parents, on a tendance à dire qu'on va vers l'anonymat. On peut être une année avec des enfants sans connaître vraiment leurs parents, sans les avoir jamais vus. Or, en école rurale, voilà, on les rencontre très fréquemment. On les connaît bien, comme disait Jean-Luc, on sait quelles activités ils font. Voilà. On tend vers l'anonymat, vraiment.
Alors, on a critiqué beaucoup ces fermetures, ces ouvertures, donc dans des regroupements qui sont de grosses usines ou de gros endroits où on peut se rassembler à 200 ou à 300. Yannick Lefeuve, que vous connaissez bien, vice-président de la communauté de communes Somme Sud-Ouest, c'est donc la vôtre en l'occurrence, intervenez sur France Bleu Picardie, où nous sommes juste avant la rentrée, sur l'intérêt de ce type de regroupement.
Nous, ce qu'on vise, c'est le bien-être des enfants. On sait que les enfants, dans les écoles qui ont fermé notamment, étaient accueillis dans des structures très vieillissantes. Les enseignants étaient isolés. Donc on ne peut pas faire un travail correct, à mon avis, si on est éloigné de ses collègues. La proximité, c'est très important, aussi bien la proximité entre les enseignants que la proximité entre les enseignants et puis nous, communauté de communes. Dans une structure comme celle-là, on peut apporter notre savoir-faire, puisqu'on a du personnel administratif qui est qualifié aussi. On peut apporter aussi la qualité au niveau des ATSEM, les agents qui travaillent auprès des enseignants maternels. Et on apporte surtout, à partir du moment où tout est regroupé, une réaction beaucoup plus rapide de notre place par rapport à tous leurs besoins.
Jean-Luc Massalon, tout le monde n'est pas comme vous, un Shiva qui faisait tout dans son école avec deux classes.
Là, je suis impressionné. C'est le bonheur, les RPC. Pourquoi? Non, mais là, j'ai envie de rire quand même.
Et pourquoi, justement, pour cette question des personnels qui sont plus nombreux, qui peuvent vous épauler en tant qu'enseignant?
Oui, mais moi, je...
Enfin, voilà, j'ai jamais eu l'impression d'être seul.
Ah non, on faisait venir de l'extérieur. On faisait venir aussi bien un artisan du village ou bien un chanteur d'oiseaux, un chant des oiseaux du village. On se déplaçait, on faisait venir des artistes à l'école. Voilà, il y a toujours possibilité, il n'y a pas besoin. Là, on a l'impression que les professeurs vont être des consommateurs. On va leur proposer tout un catalogue. et ils seront juste consommateurs au lieu de créer eux-mêmes ce savoir qui est important de transmettre et d'échanger avec les enfants. Et quant au bien-être des enfants, quand on considère un enfant de 3 ans comme un collégien ou un adolescent de 14 ans, je ne vois pas où est son bien-être, parce que là, c'est ce qu'on est en train de faire. On met des enfants de 3 ans dans les mêmes structures que des enfants que des adolescents de 14 ans. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de psychologie de l'enfant, mais je pense que ce ne sont pas les mêmes besoins l'un et l'autre.
Oui, et sur ce point, vous êtes d'accord, Sylvain Manac, vous ne les avez pas vus malheureux, ceux qui venaient rejoindre Oisemont cette semaine ?
Pas du tout. Quelques petits pleurs, mais bon, c'était, je dirais, logique par rapport aux petits, tout petits, mais comme dans toutes les écoles, voilà. Et nous aussi, quand on est à la rentrée des commissions comme en ce moment, on a toujours un petit peu le ventre un peu noué. Mais nous, c'est vrai.
Vous avez un autre diagnostic que celui de Jean-Luc Massa.
Attention. Moi, je me bats pour la. Je suis un maire rural. Faut pas. J'ai beau avoir 1400 habitants derrière moi, je suis de la ruralité, tout simplement. Et quelque part, oui, c'est une école dans un village, c'est quand même l'âme du village. Le village se régit. Par rapport à la sonnerie, à la cloche.
Dorothée Farcy, est-ce que vous pensez que cela laisse la porte ouverte à beaucoup d'écoles privées? On a appris qu'il y avait eu 157 nouveaux établissements en la rentrée 2018, 122 en 2017 qui étaient des établissements privés. Beaucoup d'écoles, enfin pas simplement, sur le modèle Montessori, qui se sont ouvertes un peu partout sur le territoire français. Parce que fermer des écoles publiques, est-ce que vous pensez que c'est une voie qui risque de s'agrandir?
Non, je ne pense pas. Le seul souci, c'est que les parents, plutôt que de rejoindre l'école publique parce qu'elle va être trop loin, vont aller au plus près et effectivement risquent de scolariser leurs enfants dans les écoles privées.
On va en créer, c'est surtout qu'ils s'en créent des écoles publiques, c'est ça qui est assez étonnant. On en voit se créer au fur et à mesure.
Bon, là, dans la Somme, on n'a pas ça chez nous.
Mais du côté d'Angers ou d'ailleurs.
Après, alors c'est quand même déplorable de voir ça.
Oui, j'imagine, parce que vous êtes une militante de l'école publique. Sébastien Vignon, pour conclure.
Oui, sur la question globale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette question des fermetures d'écoles, elle est le révélateur aussi de politiques qui ont été menées depuis maintenant très longues années, qui ont eu tendance à détricoter un petit peu les services, les liens sociaux.
Oui, mais après ce qui s'est passé cette année, ça peut peut-être aller dans l'autre sens.
La crise des gilets jaunes.
Oui, par exemple.
Ça fait 20 ans que chercheurs en sciences sociales, par exemple, mais aussi acteurs de terrain, le sentaient, ce malaise, ce mépris aussi, parfois. Les figures de la ruralité sont généralement associées à la beaufrie, l'arriération culturelle, et c'est des images assez tenaces, même dans certaines représentations médiatiques ou politiques.
Merci à tous les quatre, en tous les cas, Sébastien Vignon, Dorothée Farcy, Sylvain Manac et Jean-Luc Massalon, d'être venus dans cette émission du Temps du Débat. Merci à toute l'équipe du Temps du Débat, Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille, Louise André. Remerciements à l'ensemble des personnels de France Bleu Picardie à Amiens et en particulier à la technique à Sébastien Grandjean et Abdelbasset Alkamar, à la technique à Paris Julien Calvas, à la réalisation ici même Marie-Laure Ciboulet. Et puisque vous nous demandez le générique du Temps du Débat, il s'agit d'un extrait de À qui la faute, donc un titre de Kerry James. Et le Temps du Débat, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez bien entendu nous télécharger et nous réécouter sur franceculture.fr pendant le week-end et même beaucoup plus tard. h 59 et nous sommes à Amiens, France Bleu Picardie, mais vous êtes à la maison de Radio France, Arnaud Laporte.
On ne peut rien vous cacher, Emmanuel Laurentin.
Formidable.
Et vous serez de retour lundi. Vous restez en Picardie un peu, non? Faites un tour de France.
Je rentre dès ce soir.
Ah bon, d'accord.
Voilà.
À quelle heure? Non, c'est pas la question. on va parler de cinéma, nous, dans la dispute, dans 3 minutes. Vous parlerez de quoi lundi? Est-ce que vous le savez, Emmanuel Laurentin?
Qu'est-il arrivé à la démocratie britannique? On est dans l'actualité.
Ouais, et puis d'ici lundi, ça aura le temps de changer.
On aura de
changer.
Nouveaux rebondissements, vous inquiétez pas.
Merci beaucoup, Emmanuel. Vous écoutez France Culture, il est 19h, les titres de l'actualité avec Mathieu Laurent.